De crise sanitaire en crise économique, la précarité s'installe et s'étend à un public toujours plus large en Île-de-France. Un public large et hétérogène, étudiants, familles monoparentales, personnes sans emploi. Avec l'inflation, la fragilité de certains franciliens s'est accrue. D'autres tombent dans la précarité alors qu'ils parvenaient encore à s'en sortir jusqu'ici. Dans ce contexte, les politiques locales de solidarité vont devoir s'adapter. Mais comment, alors que certaines collectivités sont déjà exsangues? Du côté des associations, le volume de dons parvient-il à satisfaire la demande de colis alimentaires? Quelles sont les solutions de proximité lorsque l'on vit sous le seuil de pauvreté dans la région? Enfin, nous mettrons l'accent également sur la précarité étudiante, un sujet toujours prégnant 3 ans après le début de la crise du Covid. Tous ces sujets, nous en discutons ce soir avec Léa Filoche, maire adjointe en charge de la solidarité à Paris, Olivier Grinon, secrétaire général du Secours populaire en Île-de-France, et J.R. Avingue, directeur général de l'association Copain, nous rejoindra pour évoquer justement cette situation des étudiants. Île-de-France Politique, c'est parti. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Île-de-France Politique. Quasiment 16%, c'est le niveau d'inflation des prix des produits alimentaires en mars 2023 par rapport à la même période l'an passé, selon l'INSEE, avec des disparités sur le panier. Pour schématiser, cela a augmenté le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté et cela a aussi accru le niveau de pauvreté de ceux qui étaient déjà précaires. Léa Filoche ?
Absolument. La suite de la crise sanitaire a des effets sociaux qui sont plus ou moins visibles et qui sont plus ou moins rendus visibles. C'est pour ça que je rends hommage à cette soirée, parce que c'est important qu'on en parle. On n'a pas fini d'en voir tout à fait le bout. Les publics qui étaient déjà dans la précarité précédemment, eux, ne voient pas du tout le bout du tunnel et la sortie de leur pauvreté. Et puis, on a effectivement tout un large public assez varié qui, lui, a basculé dans la pauvreté, dans la précarité, et qui voit difficilement, là aussi, la sortie positive, comme on dit pudiquement, de cette situation. Et c'est une vraie inquiétude. Tous les voyants sont au rouge. Alors, une partie a baissé, c'est vrai, on voit bien, le chômage a un peu baissé, le RSA a un peu baissé, mais il n'empêche que même ceux qui ne sont pas aujourd'hui ni aux minima sociaux, ni qui font appel à la solidarité nationale d'une manière ou d'une autre, sont de toute façon impactés par les effets sociaux des suites de la crise sanitaire.
Vous parliez du RSA à l'instant. Le RSA, il avait bondi de 12% pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, vous observez une diminution de ces demandeurs ?
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une augmentation de près de 15% du nombre d'allocataires RSA à Paris entre janvier 2020 et décembre 2020. Mmh. Donc en un an, 10 000 nouveaux allocataires sont arrivés dans notre dispositif, ce qui est beaucoup. Une grande majorité d'ailleurs de jeunes, 25-35 ans. Là, on voit bien effectivement qu'une partie a pu retrouver le chemin de l'emploi, parce que les secteurs qui avaient été lourdement impactés, que ce soit la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel, le tourisme, ont quand même repris quand même forme normale. Donc, et on revient là depuis les chiffres du mois de janvier, parce que c'est des chiffres par trimestre qu'on a, les chiffres du mois de janvier nous montrent qu'on revient à peu près presque à un niveau avant crise sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément que des allocataires RSA en moins. Mmh. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est le non-recours. Il y a un taux de non-recours au RSA qui est estimé à autour de 30%.
Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas au courant des aides.
Oui, parce que c'est compliqué, parce que les démarches ne sont pas simples, parce que c'est des petites sommes souvent. Hein. Le montant moyen qui est donné en allocation RSA à Paris, il est de 498 euros. Donc, est-ce qu'on peut vivre à Paris avec 498 euros ? Pas vraiment. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire valoir, mais souvent, c'est beaucoup de démarches, beaucoup de contraintes pour un niveau de vie qui n'augmente pas forcément. Et puis, la deuxième raison aussi, c'est que quand même, on fait peser beaucoup de responsabilités sur les personnes allocataires des minima sociaux en général. Je reprends les propos de certains qui disent que ça coûte un pognon de dingue ou que toutes ces personnes sont payées à rien faire. En tout cas, il y a une chasse quand même à ses allocataires, et ça en culpabilise beaucoup, et qui du coup effectivement par choix, pour pas faire peser plus sur la solidarité nationale, ne font pas les démarches, et c'est une réalité, et c'est ce qui explique que probablement on est très en deçà du nombre de personnes qui ont le droit au RSA à Paris par rapport au nombre de personnes qui le font valoir.
Vous, en tant que secrétaire général du Secours populaire en Île-de-France, Olivier Grinon, quel est le constat que vous dressez actuellement, justement, avec ce chiffre de l'inflation qu'on a pu voir sur le panier alimentaire ?
Bah, Vous le disiez, il y a une augmentation du nombre de personnes qui frappent à nos portes, mais il y a surtout aussi une aggravation des situations. Pour vous donner un chiffre, sur mon département, il y a en 2021, il y avait en reste à vivre, sur les 40 000 personnes que nous aidions, il y en avait 30% qui avaient un reste à vivre égal ou inférieur à zéro, ce qui était déjà énorme. En 2022, il est passé à 60%. 59 et des poussières. Ça veut dire qu'en un an, déjà, il y a eu le double de personnes, le nombre de personnes a été multiplié par deux.
Et c'est... reste à vivre inférieur ou égal à zéro, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont endettées.
C'est-à-dire ce sont des personnes qui sont endettées, c'est-à-dire ce sont des personnes qui, une fois qu'ils ont fait abstraction des loyers, des charges, des dettes éventuellement, se retrouvent avec un revenu égal ou inférieur à zéro. C'est-à-dire qu'ils ont, dans le meilleur des cas, ils ont zéro centime pour acheter de l'alimentaire et pour se vêtir. Je ne parle pas des soins et autre chose. Et dans le pire des cas, c'est en dessous. Et ça, ce chiffre a doublé en un an.
Et alors, comment est-ce que vous parvenez justement peut-être à répondre aussi aux besoins, aux demandes de ces bénéficiaires?
D'abord, on parvient difficilement parce que le nombre augmente de personnes. On peut l'estimer à 15 ou 20% de personnes en plus chaque année qui viennent frapper aux portes de l'association, et c'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'il faut plus de moyens financiers, plus de produits alimentaires, plus de bénévoles, des locaux qui sont pas forcément extensibles, etc. Donc bien évidemment, nous faisons face à cette solidarité. Il y a évidemment, on ne refusera personne, mais la pression est de plus en plus lourde, oui.
Il y a un travail commun entre les collectivités locales et les associations. Comment est-ce que les politiques locales peuvent s'adapter au changement de situation de beaucoup de Franciliens?
C'est très précieux, le travail des associations sur les territoires, alors sur le territoire parisien, qui est celui que je connais le mieux en tout cas, parce que ils nous permettent d'abord, éventuellement, de pouvoir lever des choses dont on n'aurait pas connaissance, que ce soit sur des typologies de public, que ce soit sur des temporalités de besoins. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des distributions de petit déjeuner, plus le matin, plus le soir, plus l'après-midi, ou plus le week-end? Et puis parce que c'est source de bénévoles qui sont là aussi dans une dynamique hyper intéressante d'un point de vue, encore une fois, des valeurs et des messages de solidarité qu'on essaye de porter. Donc on travaille très, très en lien avec toutes les structures, notamment sur la question de l'aide alimentaire. La ville de Paris est passée de 11 000 équivalents repas distribués chaque jour en 2020 à 25 000 aujourd'hui. Et c'est aussi parce que les associations se sont beaucoup, beaucoup engagées sur la question qu'on a pu faire aussi ce grand pas-là. Ce qui aujourd'hui est compliqué, c'est effectivement le recours à l'achat de denrées. En fait, souvent les structures associatives, elles ont plusieurs manières de percevoir les denrées. Ça peut être d'aller chercher des denrées qui sont pas vendues, des invendues dans les supermarchés. Ça peut être des dons des personnes, ou ça peut être de l'achat quand il manque un certain nombre de denrées cibles. On voit bien que d'abord les dons ont sérieusement baissé parce que les personnes, elles n'ont plus les moyens de donner. Elles ont déjà difficilement les moyens d'acheter, donc donner, c'est compliqué. On voit que l'achat, c'est compliqué aussi pour les structures parce que c'est très cher et que ça pèse énormément sur un budget associatif qui, lui, n'a pas augmenté. Il faut reconnaître que les grandes enseignes de supermarchés font des efforts pour essayer de venir pallier, mais ça ne pourra pas suffire. Ce que nous, on attend, c'est le bouclier social dont l'État nous parle depuis des mois, de plein de manières différentes. Pour l'instant, on n'en a pas vu la couleur.
Il y a eu des chèques énergie, des à la rentrée.
Alors, les chèques énergie, c'est petit par rapport aux besoins. 200 euros par rapport au prix de l'énergie aujourd'hui, honnêtement, c'est largement insuffisant. Sur la question alimentaire, il ne s'est pas passé grand-chose quand même. Ce qui aurait été bien, c'est éventuellement de pouvoir venir... ce qui aurait été bien, c'est pouvoir venir accompagner les structures associatives dans le montant des subventions qui leur étaient allouées et de pouvoir l'augmenter du montant de l'inflation, ce qui aurait permis aux structures associatives de ne pas sentir la pression de cette manière-là. On essaye de le faire, nous, à Paris, un petit peu, mais on voit bien que, d'abord, ce n'est pas notre rôle. Et puis surtout, on voit bien que c'est insuffisant par rapport aux besoins. On est de toute façon en dessous des besoins.
Vous travaillez, vous, au Secours Populaire, en lien avec les collectivités locales, je pense par exemple au département de l'Essonne ou à certaines collectivités.
Oui, on travaille en lien. Alors d'abord, il y a des choses très factuelles. Hein. Pour accueillir des personnes, il faut des locaux. Donc souvent, la majorité de nos locaux sont mis à disposition des collectivités locales ou des offices HLM. Donc déjà, et souvent en plus, ils prennent en charge une partie des charges.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est difficile aussi pour les associations de joindre les deux bouts parce qu'il faut payer l'électricité pour éclairer, chauffer les bâtiments. Est-ce que ces charges-là, elles sont prises en charge par les collectivités?
Alors, sur certains postes, oui, notamment lorsqu'il s'agit de permanence d'accueil, de lieux d'accueil, mais sur des plateformes logistiques, celle de l'Essonne, par exemple, du Secours Populaire de l'Essonne, la facture d'électricité a augmenté de 300%. C'est-à-dire qu'on payait 1 000, 1 200 euros d'électricité par mois pour nos chambres froides. Hein. On paye 4 000 euros par mois.
Et là, vous n'avez pas d'aide?
Et là, on n'a pas d'aide. Et encore, a priori, on a cru comprendre que ça aurait pu être pire. donc, c'est un sujet. L'inflation touche bien évidemment prioritairement les personnes les plus démunies, mais elle touche aussi les associations, et ne serait-ce qu'à travers aussi les achats de denrées alimentaires, parce que les dons sont de plus en plus difficiles, donc il faut acheter, mais acheter à quel prix?
Et alors, comment est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque en tant qu'association? Et si vous aviez quelque chose à demander à ces collectivités locales?
Écoutez, alors, de l'argent.
Non,
très honnêtement, bien évidemment, le soutien est important, mais effectivement, s'il peut être encore plus important, ce serait bien. C'est des moyens financiers, parce que là, clairement, l'inflation, en fait, hein, l'impact. Pour les personnes en difficulté ou pour nous, il est financier. Donc c'est de compenser cette inflation par une augmentation des financements publics. Mm-hmm. Hein. Et puis après, effectivement, c'est un soutien matériel. C'est le fait d'avoir des locaux plus grands. Mm-hmm. Parce que nos locaux sont souvent pas adaptés à la réalité de ce que nous faisons. C'est-à-dire que maintenant, quand on distribue, il faut vraiment quasiment des petites plateformes logistiques. On soit capable de recevoir une tonne, deux tonnes, trois tonnes, quatre tonnes de produits pour une semaine. Et si on a un demi-étage à descendre ou à monter pour amener tous ces produits alimentaires, les personnes bénévoles, elles commencent un peu à fatiguer, à charger tout ça. Donc là, il y a tout un panel de choses. Le soutien existe. Il faut le renforcer.
Il faut l'intensifier. Est-ce qu'il y a une crise des dons? Est-ce qu'il y a une crise du bénévolat? Est-ce que vous avez toujours autant de bénévoles? Est-ce que vous avez toujours autant de dons?
Alors, il n'y a pas de crise. On a de plus en plus de personnes bénévoles qui viennent rejoindre les associations et le Secours Populaire Français.
C'est positif.
Donc ça, c'est un côté positif. On augmente un petit peu les dons, mais le problème, c'est que cette augmentation, la courbe n'est pas du tout la même entre l'augmentation des personnes qui viennent nous voir et l'augmentation des dons. On a eu une augmentation l'année dernière de 5 à 6% des dons au niveau du Secours Populaire, mais il faudrait qu'on en ait au moins 15 ou 20% pour pouvoir faire face, et encore, à une réalité d'aujourd'hui, mais on n'a pas... Donc voilà, c'est en deçà, mais c'est un petit peu le drame des associations, c'est d'avoir une croissance qui est inférieure à la croissance de la pauvreté,
c'est la difficulté. Une diversité de profils qui dans les bénéficiaires.
Oui. Alors, en fait, vous en parliez un moment. D'abord, le confinement, la pandémie a fait un effet de loupe sur des situations qui existaient déjà. Mmh. Et cette diversité, elle existait. Simplement, elle a explosé. On parlerait tout à l'heure sur les étudiants. Population qui venait peu dans nos permanences d'accueil, qui venait, hein, mais il fallait plutôt aller vers eux. Maintenant, elle vient vers nous directement.
Enfin, c'est-à-dire qu'il
ne faut pas aller... Voilà, leur situation est telle qu'ils viennent vers nous. Les familles monoparentales, bien évidemment, en fait, et toutes les personnes qui ont des petits travails. Il y a une ubérisation du travail aujourd'hui.
On est obligé d'avoir plusieurs postes.
Voilà, et un travail qui est très mal rémunéré, ou très peu de couverture sociale, etc. Et ces gens-là, dès qu'il y a une crise, la pandémie est une très grosse crise, ça bascule direct.
Bien sûr. Nos équipes ont tourné un reportage à l'association Mamama à Saint-Denis, une distribution de produits infantiles notamment. On va écouter ces mamans qui sont bénéficiaires de cette association.
Si t'as pas papier, t'as pas travaillé, c'est compliqué pour avoir à manger. Faut pas acheter parce que c'est cher. Dans le magasin, on m'a même couche, le lait, manger, tout c'est cher. Mais si on est venu ici, ma maman nous donne
les produits de visage, les maquillages. En tout cas, c'est des trucs qui coûtent très cher, qu'on donne. Puis tout c'est neuf aussi.
C'est trop cher.
Ouais, c'est cher. Nous, on ne peut pas acheter, franchement. Mais ils nous donnent tout ici. Nous, ça nous arrange tellement.
Je n'ai pas de ressources, rien. Et quand je viens à la maman ici, franchement, je trouve des vêtements de qualité pour mes enfants.
Il y a un vrai sujet avec, par exemple, les familles monoparentales, les mamans seules qui viennent notamment chercher des produits pour leurs enfants en bas âge.
Oui, parce que ce sont en plus des produits qui déjà naturellement sont difficiles à trouver, qui sont très difficiles à trouver gracieusement, gratuitement. Mm-hmm. Donc,
il n'y en a pas assez dans les dons, les collectes.
Il n'y en a pas assez dans les dons, dans les collectes, d'abord parce que ça coûte cher. Hein, les personnes qui font des dons, n'ont pas non plus des moyens extraordinaires. Donc il y a déjà cette faiblesse au niveau des dons. Et il y a une plus grosse faiblesse encore au niveau de la récupération auprès des grandes enseignes, etc. Donc c'est des achats. Et donc c'est au cas par cas. Mais c'est un gros effort que nous faisons sur ce sujet-là.
Ce sont des produits dont on manque assez souvent.
Ouais, assez cruellement, effectivement. D'abord parce qu'effectivement ils sont très chers. Ensuite parce qu'ils font pas l'objet de dons ou trop rarement. Et aussi parce que c'est difficile pour une dame d'aller faire une demande de ce type de produit-là. Honnêtement, il n'y a rien de naturel là-dedans. Alors, il n'y a rien de naturel à faire une demande pour manger non plus. Hein. Mais là, c'est pour son gosse, quoi. C'est même pas pour elle, c'est pour son enfant. C'est vraiment, ça relève du droit fondamental. Et c'est le signe, pour moi, et c'est ça qui m'inquiète et qui me fait dire qu'il faut qu'on continue ensemble à tirer les sonnettes d'alarme, c'est que, encore une fois, c'est plutôt le signe que notre société va quand même pas très bien quand on en est à se poser la question de savoir si on peut aller à une distribution alimentaire pour aller récupérer des couches pour son gamin. Ça, c'est quand même, pour un pays qui se veut être la sixième puissance mondiale, on est quand même un peu dans la contradiction.
Alors, comment est-ce qu'on agit en prévention, justement, de tout ça? Parce que là, on parle du constat de tous ces publics qui sont de plus en plus diversifiés. Comment est-ce qu'on agit, vous, en tant que collectivité locale, pour éviter que certaines personnes se retrouvent comme ça dans une extrême précarité?
Il y a trois niveaux, à mon avis. Le premier niveau, c'est celui de l'interpellation de l'État, qui est en partie responsable quand même, sans vouloir rejeter la pierre en permanence. Mais enfin, le montant des salaires, les minima sociaux, l'accès à la santé qui est de plus en plus payant. Donc tout ça joue forcément sur le portefeuille général des ménages. Donc les choses sont plus chères et il n'y a rien qui, en tout cas pas grand-chose, pas suffisamment, qui est proposé pour venir essayer de compenser ça. Nous, on le voit bien aussi dans nos services, que ce soit dans les centres d'hébergement, dans les distributions alimentaires, dans les bagageries, dans les bains douches, les gens ils travaillent. Hein. Alors, ils travaillent dans des conditions en général assez dégradées, avec pas de statut. Ils n'ont pas de droit ouvert plus que ça, pas le droit au chômage, pas le droit à la santé, pas le droit à la sécu, pas le droit à la retraite. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. Deuxième chose, c'est que nous, on est dans un dispositif d'essayer de resserrer les filets de la solidarité. Donc en lien avec les structures associatives, en lien avec les bénévoles, en lien avec les Parisiens que ça peut intéresser. Donc resserrer tous les filets qu'on a, et on en a quelques-uns. Encore une fois, je citais les bains-douches. Qui peuvent venir aussi accompagner des personnes quand elles ne peuvent plus payer la facture d'eau chaude. On peut venir se doucher en lien avec les distributions alimentaires, en lien avec les dispositifs de domiciliation, en lien avec les accueils de jour. Enfin, il y a tout un faisceau quand même d'objets qui sont à notre portée, à notre main. Et puis la troisième chose, c'est celle de la mobilisation citoyenne, qui est très importante aussi. Les Parisiens sont particulièrement mobilisés au moment de la Lune de la Solidarité, mais on le voit aussi à la Fabrique de la Solidarité qu'on a créée il y a 5 ans maintenant. Qui est un lieu où on met en lien les personnes qui ont envie de s'engager pour les questions de solidarité et les structures qui en ont besoin. Et c'est aujourd'hui plus de 17 000 Parisiens qui sont dans le fichier de la Fabrique de la Solidarité, qui sont à disposition des structures associatives quand elles ont des besoins en matière de solidarité. Donc c'est ces trois-là qu'il faut faire. Il ne faut rien lâcher. Mmh. Voilà. Faut appuyer sur tous les boutons.
On a accueilli notre troisième invité. Bonsoir, J.R. Avingue. Vous êtes directeur général de l'association Copains, qui vient en aide alimentaire et vestimentaire à 2000 étudiants dans notre région. Aujourd'hui, la situation des étudiants, elle est comment? Parce qu'on sait qu'il y a 97% d'étudiants qui se restreignent. C'est selon une étude de Linky, une autre association. Quelle est cette situation des étudiants aujourd'hui?
Bon, c'est la question qui est un peu toujours, c'est où est-ce qu'on en est avec la jeunesse, où est-ce qu'on en est avec les étudiants, pourquoi il y a autant de difficultés. Il y a eu une grosse crise sanitaire qui a mis en lumière tout ça, qui a permis, nous, des associations, de se lancer parce que enfin, on levait certains tabous sur la jeunesse, sa précarité, et de dire, finalement, c'est pas que un passage de la vie, c'est pas que l'école de la vie. Il y a un accompagnement à apporter. C'est le moment où on passe les 18 ans, c'est le moment où il faut accompagner, devenir un vrai citoyen et pouvoir bénéficier d'aide et d'accompagnement. Après ça, finalement, avec l'inflation, avec toutes les difficultés actuelles qui se répercutent à tous les niveaux et qui sont remarqués et qui ont des combats au niveau des retraites, au niveau de la vie active, et il y a ces mêmes combats à mener sur la jeunesse, sur les étudiants, nous, on en est de plus de 2000 sur la région Île-de-France, que ce soit avec de l'alimentaire, du vestimentaire, de l'accès à la culture, au sport, l'accès aux droits, de l'information tout court. Il y a un énorme travail à faire qu'on fait. On est des étudiants pour des étudiants, on est des jeunes. C'est pas forcément à notre place, à nous, parce que nos études, mes études sont un peu mises de côté le temps de faire ça, mais on fait ça et ça avance bien parce qu'effectivement il y a une demande gigantesque.
Comment est-ce que ça fonctionne, copains, qui vous donne finalement ces denrées? Parce que vous livrez des paniers, c'est bien ça?
Alors on les livre pas, on a des lieux de distribution.
Oui, vous avez des lieux de distribution.
Avec un certain nombre d'étudiants qui s'inscrivent s'ils pensent qu'ils en ont le besoin. On passe beaucoup de temps à discuter avec eux, à les questionner, à les aider sur tous les autres points. La logique, c'est la moindre galère, la moindre difficulté. Passer 18 ans, passer le bac, tu peux venir voir copain.
On a mis les points de collecte d'ailleurs. On a mis déjà Aubervilliers alors que c'est pas encore ouvert.
Mais ça arrive.
Ça arrive.
Tu peux venir voir copain. On est présent partout en France. On va t'aider. On va t'accompagner là-dessus. On récupère beaucoup de denrées auprès de partenaires, d'associations partenaires. C'est tout un écosystème qui travaille pour redistribuer les denrées et accompagner les jeunes.
Est-ce que les dons, ils sont toujours aussi importants qu'avant ?
Alors, pendant la crise sanitaire, il y a eu un moment un peu spécial où soudainement, beaucoup d'entreprises donnaient des dizaines et des dizaines de palettes d'un coup parce qu'il y avait peu d'activités et qu'il fallait soit vider les stocks, soit c'était un moment de grande solidarité. Maintenant, on n'a pas connu l'époque avant crise du Covid. C'est pour nous plus difficile, mais c'est beaucoup de démarchage, beaucoup de discussions et on a quand même des dons, on va les chercher.
Il y a une question que je me posais, Olivier Grinon, parce que désormais il y a des supermarchés anti-gaspi, il y a une volonté de moins jeter de la part des grandes surfaces. Est-ce que pour vous ça complique aussi peut-être le travail, et parce qu'on sait qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient récupérer des denrées alimentaires?
Oui, alors en même temps c'est vertueux, on peut pas le critiquer.
Certes,
mais très honnêtement, oui, c'est pour nous c'est une grosse préoccupation parce que ça tarit toute une source d'approvisionnement pour les associations de récupération de dons. C'est-à-dire que c'est une baisse vraiment franche de récupération sur certaines grandes surfaces. Enfin, nous n'allons quasiment plus dans des grandes surfaces. Pour récupérer des dons, il faut aller sur la plateforme logistique. Ou alors quand on va sur une grande surface, ça va être pour récupérer quelques cartons. Et c'est difficile. Oui, ça nous a grandement mis en difficulté.
Oui,
c'est assez intéressant, la loi Garot, parce qu'avant, quand j'étais simplement consommateur et que j'allais au supermarché, on est bien content d'avoir des réductions sur des denrées qui vont rapidement périmer. On se dit que c'est très bien. Mm-hmm. Et après, quand on passe du côté associatif, on se dit que c'est plein de denrées qu'on aurait pu récupérer. Donc effectivement, c'est une question assez intéressante.
Des denrées qui n'étaient déjà pas gaspillées, en vérité.
Oui,
si je peux me permettre.
Qui n'était pas gaspillé.
Qui n'était donc pas gaspillé. Finalement, quelles seraient les mesures à mettre en place très rapidement, selon ce que vous constatez sur le terrain?
Alors, des mises en place, il y a une réforme des bourses qui a été lancée, qui va avoir plusieurs phases successives. Je pense que ça n'apporte pas une réponse à une précarité, une pauvreté qui est assez structurelle pour la jeunesse. Que tous les étudiants, et généralement tous les jeunes, tous les étudiants qui viennent à nos distributions, une grande majorité travaillent. Donc ils ont des revenus, mais ils sont quand même précaires, il y a quand même une pauvreté. on est en dessous du seuil de pauvreté quand on a notre âge. C'est bien. Il y a une réforme donc, qui apporte un peu plus de 30 euros en moyenne aux étudiants qui sont boursiers. Mais il y a toute une partie qui ne rentre pas dans ces critères de bourse-là, qui sont dans une autre zone grise. Et puis finalement, de toute façon, 200 euros par mois en plus, même quand on travaille déjà... on a déjà des difficultés à vivre quand on a un salaire et quand on est actif. Alors, il y a des grandes réformes potentiellement à apporter et qui pourraient changer pas mal de choses plus en profondeur que simplement des pourcents.
Donc c'est voilà. Et le repas à 1 euro pour tous les étudiants a été rejeté à l'Assemblée nationale à une voix près. Malgré tout, le gouvernement affirme avoir abondé les associations d'aide justement aux étudiants d'un fonds de 10 millions d'euros. Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que vous en avez bénéficié?
On en a bénéficié. Ça nous a permis de nous développer dans beaucoup de villes, d'ouvrir dans beaucoup de villes, donc d'apporter des aides. Là, on était sursollicité. On avait beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui nous disaient est-ce que vous connaissez une association locale qui fait un peu la même chose que vous? Est-ce que vous pouvez venir nous aider? Donc, ça nous a permis de répondre à ça, de bien répondre à ça, parce qu'on a pu faire ça très rapidement en achetant directement des véhicules. Vous en parliez tout à l'heure, l'électricité, l'essence, de répondre à toutes ces factures-là sans commencer à les solliciter tous les acteurs privés, les collectivités. Donc, ça nous a bien facilité la vie. Mais c'est une aide ponctuelle, c'est 10 millions d'euros qui ont été bloqués à un moment. Après, il ne faut pas que ça disparaisse et que les associations qui
reconnaissent ça... Est-ce qu'il y a une reconduction de ce fonds de 10 millions d'euros?
Pas de ce fonds-là, mais nous, on continue à discuter avec les ministères pour aller débloquer des sommes pour pouvoir aider et pour pouvoir répondre à cette pauvreté.
Et il y a aussi un problème d'accès aux soins. On imagine que si on ne mange pas à sa faim, on ne va peut-être pas forcément se soigner. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose que...
Ce qui est difficile pour des personnes en précarité, quel que soit leur âge, c'est de devoir faire en permanence des choix. Entre se loger, se nourrir, se soigner, vêtir son enfant, payer ses transports. Voilà. Et donc c'est la lutte permanente à devoir arbitrer sur normalement des choses qui relèvent plutôt du droit fondamental. Donc quand on arbitre pour savoir quel film on va aller voir, ça reste un moment joyeux. Quand on arbitre pour savoir si on peut acheter une tranche de jambon, une orange ou un légume et qu'en fait on a les moyens que d'acheter l'un des trois, c'est une autre manière encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, de sentir le poids de la pauvreté sur soi en permanence. Et ces arbitrages-là, ils sont très difficiles, très douloureux. Et par ailleurs, on s'en est déjà parlé aussi, mais la question du Covid, elle a aussi relevé, vous parliez d'effet de loupe tout à l'heure, elle a aussi révélé chez plein de gens tout un système de mal-être et qu'on ressent aujourd'hui effectivement sur la question des soins en général, où on a des publics qui sont fragilisés, qui sont pas bien, qui sont pas en forme. Alors d'abord parce qu'ils sont pauvres et que le quotidien pour elles est compliqué, mais en plus parce que de toute façon ils n'ont pas les moyens de se soigner correctement, ne serait-ce que sur la question psychique, au-delà des soins physiques. Et ça aussi on le ressent dans nos dispositifs. On voit bien le fait que les gens sont vraiment dans une souffrance personnelle qui là aussi dans le quotidien, dans tous les gestes du quotidien, rend les choses beaucoup plus compliquées. Et quand on commence sa vie à 18 ou 20 ans par ça, par devoir apprendre à faire des choix entre savoir s'il faut manger, se loger ou se vêtir, c'est pour toute la vie après.
Merci beaucoup. On est arrivé au terme de cette émission, malheureusement. Merci à vous trois d'avoir participé donc à ce nouveau numéro d'Île-de-France Politique. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur BFM Paris Île-de-France.